Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les accords de partenariat économique ou APE?
Les accords de partenariat économique, comme leur nom l'indique, sont des accords en négociation entre l'Union européenne et les pays ACP, donc depuis 2002-2003. Et il y a différents types d'accords de partenariat économique, puisque l'Union européenne a préféré scinder les ACP en bloc. Même le continent africain a été scindé en bloc. Donc il y a un APE en négociation avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique centrale, avec l'Afrique australe, avec l'Afrique de l'Est. Pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, puisque je suis du Sénégal, l'objectif de l'Union européenne, c'est en fait d'avoir un accord qui permet à 75% de ses marchandises d'entrer dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest sans payer de droits de douane. Alors ça va être une catastrophe pour les pays et les peuples d'Afrique de l'Ouest, dans la mesure où la première conséquence, ça sera en fait des pertes de recettes douanières. On estime pour un pays comme le Sénégal que dès la première implication, ce pays va connaître une baisse de recettes budgétaires d'au moins 75 milliards de francs CFA. À partir de la 20e année, ça va être 240 milliards de francs CFA par an. Ça, c'est la première conséquence. Il va y avoir une baisse des budgets des 16 États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire une baisse d'autant des budgets de l'éducation, de la santé, de la sécurité, etc. Alors qu'on sait que ces pays sont confrontés à des défis sécuritaires, à des défis alimentaires, défis sanitaires, à des défis d'éducation, etc. La deuxième conséquence, vous l'aurez sans doute imaginé, c'est que 75% des marchandises en provenance de l'Union européenne ne payant plus de droits de douane pour entrer dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, ces marchandises vont devenir encore beaucoup plus compétitives qu'elles ne le sont déjà. Beaucoup plus compétitives donc face à d'autres marchandises identiques ou similaires produites localement. Ça veut dire donc deuxième conséquence, fermeture de PME, PMI ou licenciement pour motif économique. Nos paysans ne vont plus pouvoir vendre, d'accord? Ça veut dire que la pauvreté dans le monde rural va augmenter. Alors, en 2014, on estime à 14 Sénégalais au moins qui traversaient irrégulièrement la mer Méditerranée pour entrer en Italie. Vous vous imaginez bien qu'avec la catastrophe que cela va induire dans le monde rural, la crise migratoire va encore augmenter. Voilà en fait les deux principales conséquences sur lesquelles la coalition nationale non aux APE, dont je suis membre, communique souvent. Bien sûr, il y a d'autres aspects sur lesquels on pourra revenir.
Et quels seront pour vous les bénéficiaires de ces accords?
Il n'y aura en fait qu'un seul bénéficiaire, c'est l'Union européenne. Parce que 75% des marchandises de l'Union européenne entrant dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, pour prendre l'APE, l'exemple de l'APE de l'Afrique de l'Ouest, entrant donc sans payer de droits de douane, il est clair que c'est une subvention qui ne dit pas son nom aux entreprises de l'Union européenne. C'est ça la réalité. D'ailleurs, il faut replacer les APE dans leur contexte. Les pays de l'Union européenne, notamment la France, pour ne prendre que cet exemple-là, ont vu leur part de marché dans le continent africain, particulièrement en Afrique subsaharienne, baisser de manière drastique ces 10 ou 15 dernières années. La France, y compris dans les pays anciennement colonisés, donc des pays qui continuent à utiliser le français comme langue officielle, ce qui induit des habitudes de consommation chez les consommateurs africains appartenant à ces pays, y compris dans ces pays-là, la France a vu ses parts de marché divisées par deux, au moins, donc au profit des pays dits émergents. En réalité, l'accord de partenariat économique est la solution trouvé par l'Union européenne, avec la France et l'Allemagne comme locomotive, pour arrêter la saignée, pour regagner ses parts de marché, pour faire face aux autres pays comme les États-Unis, etc., mais également aux pays dits émergents. Vous avez vu tout récemment, et je termine peut-être par ça, ce qu'on a appelé la crise du lait, qui est une crise quasiment partout dans les pays de l'Union européenne. En France, cette crise du lait s'est traduite par une lutte, d'accord, des laitiers. En France, cette crise du lait est traduite par un malaise rural. Aujourd'hui, en France, il y a tous les ans 600 suicides d'agriculteurs français. 600. Il faut faire face à ces suicides, il faut faire face à ces malaises sociaux dans l'Union européenne et en France. Nous, en Afrique, nous de la coalition nationale non aux APE, nous sommes solidaires de la lutte des agriculteurs français, de la lutte juste et légitime des agriculteurs de l'Union européenne, mais nous estimons que la solution, ce n'est pas de transformer, d'accord, ces suicides français, allemands, ou espagnol, suicide béninois, sénégalais, gambien et autres.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que les APE permettraient aux compagnies africaines de mieux exporter vers l'Union européenne?
Mieux exporter, j'en doute fort. Il faut, à la vérité, de dire que la situation actuelle, les APE n'étant pas encore appliquées, la situation actuelle, c'est qu'effectivement, depuis, il me semble, 2005, au moins, les pays africains bénéficient de ce qu'on appelle la directive tout sauf les Arabes, qui permet aux pays africains d'exporter, comme son nom l'indique, en France, en franchise de droits de douane, d'accord, leurs marchandises sans paiement de droits de douane. Aujourd'hui, la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest, d'accord, font partie de ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Est-ce que ces pays, d'accord, sont devenus forts depuis, en fait, l'application de la directive tout sauf les armes, sont devenus de plus grands exportateurs vers l'Union européenne? Non. C'est-à-dire que sans les APE, nos pays n'ont pas réussi, d'accord, à s'imposer dans le marché de l'Union européenne parce que au-delà, en fait, des barrières tarifaires, il y a des barrières non tarifaires qui font que nos paysans, nos PME, PMI ne peuvent pas s'imposer, d'accord, dans le marché de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les APE? Ça va être pire, parce que l'État ne pourra même pas soutenir les entreprises du fait de la baisse des recettes budgétaires dont j'avais parlé tout à l'heure. D'accord? Autrement dit, il y a des pays aujourd'hui qui n'ont aucun intérêt à signer les accords de partenariat économique, parce que s'ils vont continuer à bénéficier de la directive tout sauf les armes, s'ils ne signent pas aussi, ils bénéficieront de la directive tout sauf les armes. Donc, un pays comme le Sénégal, ainsi que 11 autres pays sur les 16 pays, n'ont aucun intérêt à signer. C'est d'ailleurs pourquoi l'opinion publique africaine, pour ne pas dire ouest-africaine, est étonnée de voir des pays comme le Cameroun, comme le Sénégal, le Burkina, la Guinée, etc., mais en fait signer ces accords-là qui ne leur apportent rien, rien de nouveau.
Donc, en parlant de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont déjà ratifié l'APE intérimaire. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir des conséquences assez négatives sur l'intégration en Afrique?
Mais justement, vous nous permettez d'aborder un autre aspect de ces accords de partenariat économique qui, en réalité, sont contre l'intégration africaine. Parce que vous voyez ce que cela produit. C'est-à-dire qu'on fait du chantage au Ghana et à la Côte d'Ivoire pour leur dire, vous qui n'êtes pas PMA, vous qui n'êtes pas pays, vous qui n'êtes pas parmi les pays les moins avancés, si vous ne signez pas d'APE intérimaire, c'est que vos marchandises vont payer dorénavant des taxes douanières pour entrer dans le marché de l'Union européenne, avec comme conséquence être moins compétitive que des marchandises produites en provenance de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, donc pour ne citer que cela. Donc, objectivement, les accords de partenariat économique sont contre l'intégration en fait sous-régionale. Nous pensons qu'effectivement, la ratification de ces deux APE intérimaires par le Ghana et la Côte d'Ivoire pose un problème.
Donc vous pensez que les APE sont finalement une entreprise beaucoup plus néolibérale, voire néocoloniale?
Mais bien sûr. Ça ne date pas en fait des accords de partenariat économique. Ces accords de partenariat économique ont été précédés par les plans d'ajustement structurel qui en fait imposaient à nos pays, à travers le FMI et la Banque mondiale, une libéralisation accrue, une ouverture de nos marchés, une libéralisation beaucoup plus renforcée. Il y a effectivement un plan de division internationale du travail qui est d'ailleurs appliqué. Et cette division internationale du travail qui voudrait en fait que nos pays pays sous-développés restent en fait des pays consommateurs de marchandises en provenance d'autres pays dont la place dans cette division internationale du travail est la place de producteur. L'APE renforce davantage encore cette division internationale du travail qui, comme je le disais tout à l'heure, va appauvrir, va sous-développer davantage nos pays. Ça va être une apocalypse économique et sociale.
Et est-ce qu'il y a une mobilisation populaire au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest en général contre ces APE, bien sûr?
La lutte contre les APE, dans la lutte contre les APE, il faut noter pour l'instant deux phases. La première phase, c'est celle qui va de 2002-2003 à 2007-2008. Ça a été la phase où le rapport de force en Afrique de l'Ouest et dans des pays comme le Sénégal était en faveur des abolitionnistes. D'accord? Mais à la faveur de plein d'événements qui se sont produits dans la sous-région, notamment le départ de président qui mobilisait en fait les moyens de l'État et les peuples contre les APE, nous sommes passés à une deuxième phase où le rapport de force s'est inversé. Aujourd'hui, le rapport de force est en faveur, d'accord, du maintien des accords de partenariat économique, de leur application, avec l'avènement de régimes comme celui du président Macky Sall au Sénégal, qui ont même joué le rôle de facilitateur. Donc, nous estimons que le président Macky Sall et son gouvernement ont adopté, pour l'instant sur la question des accords de partenariat économique, la posture peu glorieuse de tirailleurs sénégalais au service, comme hier durant la colonisation, des impérialistes.
Et est-ce que vous arrivez à faire passer ce message au sein de la population au Sénégal?
Ce rapport de force dans la deuxième phase, comme je le disais tout à l'heure, fait que c'est devenu très compliqué de se battre contre les accords de partenariat économique. Dans la deuxième phase où les gouvernements étaient contre les APE, vous avez vu des chefs d'entreprise diriger les coalitions non aux APE. Au Sénégal, c'est en fait le président du CNP, Baydy Aïe, qui était à la tête de la coalition non aux APE au Sénégal. Mais dans la deuxième phase où les États sont contre, vous ne voyez aucun chef d'entreprise élever la voix, participer à la mobilisation contre les APE. Parce que bien sûr, il y a des risques de représailles. Il y a beaucoup de marchés qui sont donnés sous la forme de gré à gré. Et bien sûr, nos États ne sont pas si républicains qu'ils le disent. Et la représaille pour ces entreprises-là serait d'être privées des marchés publics. Donc, ce qui fait que ce sont des militants associatifs, des militants de partis politiques, certains militants en fait syndicaux qui travaillent à la mobilisation. Et malgré le contexte très dur, nous avons noté, notamment pendant l'année 2016, qu'il y a beaucoup plus de citoyens de l'Afrique de l'Ouest et de Sénégalais, pour prendre le cas que je maîtrise le plus, qui ont été informés, qui se sont mobilisés contre les APE. Par exemple, des intellectuels, des hommes politiques, des députés ont eu à signer une pétition rendue publique durant l'année 2016 contre les accords de partenariat économique. Il y a beaucoup plus de citoyens, des villes comme des campagnes, qui demandent à organiser des conférences sur les APE, qui demandent à mieux comprendre, qui demandent à s'investir davantage. L'une des illustrations de cela, c'est que le samedi 7 janvier prochain, nous organisons avec d'autres militants associatifs un rassemblement à la place de l'obélisque contre les APE et le franc CFA.
Et sinon, en Afrique, il y a un autre projet de libre-échange, c'est la zone de libre-échange continentale. C'est un projet qui est négocié au sein de l'Union africaine. Est-ce que vous avez plus de détails sur ce projet de libre-échange? Quel est son but, ses avantages, ses dangers?
Le premier élément que vous me permettrez de dire et de faire le lien avec les accords de partenariat économique, c'est que ce soit la zone de libre-échange, le projet de zone de libre-échange continentale, que ce soit les accords de partenariat économique, ils ont quelque chose, tous les deux, de similaire. C'est l'éclipse démocratique qui caractérise leur processus. L'Union européenne a fait au moins 3 études d'impact sur l'UE qu'elle n'a pas voulu publier jusqu'à présent. Nous sommes au courant des résultats de ces études en fait, d'impact qui sont en défaveur de l'application des APE car il y a eu des fuites. De la même manière, le projet de zone d'échange continentale qui a été adopté depuis 2012 et qui doit en fait être mis en œuvre d'ici au plus tard le 31 décembre de cette année, 2017. Aucun peuple, très rares sont ceux qui sont informés au niveau des peuples sénégalais, béninois, togolais, nigériens ou autres, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, etc. Très peu. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce projet de zone de libre-échange continental est indifférent vis-à-vis de l'accord de partenariat économique. En politique, indifférence signifie complice. D'accord? Ce projet de zone de libre-échange continental a pour objectif une libéralisation, donc la création d'un marché continental à travers une libéralisation de 100%. Alors, les marchandises à libéraliser sont à déterminer, mais c'est une libéralisation de 100%. Et notre crainte, c'est que puisqu'ils disent qu'il faut donner davantage au continent africain qu'on en a donné à l'Union européenne, nous avons peur que les mêmes marchandises ciblées dans les APE soient également ciblées au niveau de la zone de libre-échange continentale. Ce qui nous amène à dire, nous, au niveau de la coalition non aux APE, que appliquer la zone de libre-échange continentale, c'est appliquer un double accord de partenariat économique. Une première libéralisation avec l'Union européenne, une deuxième libéralisation avec la zone de libre-échange continentale.
Mais à qui profitent vraiment ces accords?
Il y aura deux catégories de bénéficiaires dans cette zone de libre-échange continentale. Les mêmes critiques que nous formulons à l'endroit de l'Union européenne, nous les formulons également à l'endroit de cette zone de libre-échange continentale. Les gros poissons africains vont dévorer les petits poissons du continent africain. Donc, les grands capitaux africains vont écraser les organisations familiales paysannes, d'accord, les petites PME, PMI. Voilà la première conséquence. Or, nous sommes opposés à ce que le Sénégal écrase la Gambie, le Nigeria écrase le Niger ou l'Afrique du Sud écrase le Lesotho. C'est parce que ce sont les mêmes critiques que nous formulons à l'endroit, en fait, de l'Union européenne. Il y a, en fait, un déséquilibre, d'accord, qui fait que c'est impossible, en fait, de mettre sur le même ring, d'accord, des économies au PIB de 200 et quelques dollars, les mettre sur le même ring que d'autres PIB de 15 000, de 1 000, voilà. Donc, les deuxièmes bénéficiaires, c'est l'Union européenne et bien sûr les autres zones économiques, parce qu'en réalité, appliquer la zone de libre-échange continentale, c'est ouvrir un deuxième boulevard après les accords de partenariat économique aux multinationales, d'accord, de l'Union européenne, des États-Unis, de la Chine, etc.
Donc vous ne pensez pas que la zone de libre-échange continentale pourrait favoriser l'intégration africaine, par exemple en augmentant le commerce intra-africain?
Avoir un marché commun africain est important, d'accord. Nous le souhaitons, nous soutiendrons un projet qui va dans ce sens. Mais le problème, c'est que cette zone de libre-échange continentale met en avant des valeurs comme en fait la compétitivité, comme la concurrence. Or, mettre de l'avant le libre-échangisme, la compétitivité et la concurrence, en fait, pour nous, c'est appliquer d'autres schémas dont on a vu en fait les conséquences ailleurs. Regardez l'Union européenne, regardez en fait l'Amérique, tout simplement, pour ne citer que ces deux exemples. Nous pensons plutôt qu'il faut mettre sur pied des marchés avec d'autres valeurs, la solidarité, la complémentarité. C'est pour ça que nous estimons, pour schématiser un peu, qu'il y a au moins une lutte entre deux modèles. Le modèle de l'ALBA, d'accord, et le modèle de l'ASEAN.
Je vous coupe juste une petite précision pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces deux accords, l'ALBA et la SLEA, ce sont deux accords d'intégration économique au niveau des Amériques, l'un l'ALBA plutôt soutenu par le Venezuela entre autres, et l'autre la SLEA plutôt un projet soutenu par les États-Unis.
Oui, le projet libéral porté en fait par les États-Unis et quelque part le Canada et des pays comme ceux-là, d'accord, mettent en avant, comme je le disais tout à l'heure, la compétitivité, la concurrence, le libre-échangisme, ça veut dire les gros marchés écrasant les gros capitaux. Écrase en fait les petits capitaux. Au contraire, ou plutôt face à ce modèle-là, il y a un autre modèle qui était soutenu par Cuba, par Venezuela, par le Venezuela, etc., qui voit en fait un modèle d'intégration alternatif où en réalité c'est la complémentarité des économies, c'est en fait la solidarité qui est mise de l'avant. Donc il n'est pas question dans ce modèle-là que par exemple un pays qui a un secteur agricole fort écrase en fait un autre pays qui a un secteur agricole faible au point de le faire disparaître et de faire dépendre ce pays et ce marché complètement, d'accord, du marché en fait le plus fort et de créer pauvreté et chômage, d'accord. Et cela me permet d'ailleurs de revenir sur un autre aspect qui n'est pas bon et sur la zone de libre-échange continental et en fait sur les APE, c'est que il n'est seulement question que de libre circulation des biens, des marchandises, mais il n'est en aucun moment question de libre circulation des personnes. Or, ce qui va se passer, c'est que la pauvreté, le chômage, que ce libre-échangisme va induire, va provoquer des pauvretés qui provoquera une libre circulation en fait, des personnes.
Et donc, bien sûr, vers un processus de migration des populations accrue.